franceinter.fr.
Marcel!
Le grand écrivain est comme la graine qui nourrit les autres de ce qui la nourrit d'abord elle-même.
Je me réjouis pour toi de cette rencontre avec Elstir.
Un été avec Proust. Une émission de Laura Elmaki.
Le grand écrivain est comme la graine qui nourrit les autres de ce qui la nourrit d'abord elle-même. Marcel Proust n'est pas rancunier. Il n'y a qu'à lire cette phrase qu'il écrit dans une lettre adressée à André Gide. Rappelez-vous, c'est lui qui avait refusé, sans presque l'ouvrir, le manuscrit de Du côté de chez Swann que Proust avait envoyé aux éditions Gallimard. Le grand écrivain, c'est donc lui, l'auteur du futur roman Les Faux-Monnayeurs, mais surtout celui des Nourritures terrestres, l'un des livres favoris de Proust. Il estime que c'est cet homme de lettres qui parvient comme personne à nourrir les peuples et à insuffler de la vie dans l'esprit des hommes. Le narrateur d'À la recherche du temps perdu a ce même projet, celui d'écrire un livre dans lequel le lecteur pourrait se reconnaître et à partir duquel il pourrait se construire. Mais le trajet est long et les périodes de découragement sont tenaces pour notre jeune héros que le doute n'épargne pas. Heureusement, il côtoie l'écrivain Bergotte qui va un temps lui servir de modèle. Pour cette quatrième émission donc autour des arts, je vous emmène sur les traces de cet artiste en herbe qui écrit le roman de sa vocation. Et c'est le professeur, historien de l'art et romancier Adrien Goetz qui est à mes côtés ce soir pour en parler.
Ma première rencontre avec Marcel Proust m'a laissé naturellement un souvenir ineffaçable parce qu'elle s'est passée dans des conditions si étranges. Il avait été un ami d'adolescence de mon père et de ma mère, mais il ne m'avait jamais vue jusque vers l'âge de 12 ans. À ce moment-là, il est arrivé chez mes parents entre 11h du soir et minuit en disant qu'il avait un urgent besoin de me connaître et qu'il fallait absolument que mes parents me fassent chercher. J'étais profondément endormie et ma mère a résisté un instant, mais il a tant insisté qu'on m'a fait chercher. Et moi-même, j'étais de très mauvaise humeur. Et quand je suis descendue au salon, il s'est donné tant de mal pour m'apprivoiser. Il a été si charmant que j'ai été instantanément sous le charme et émerveillée et éblouie. Et ma dernière rencontre avec lui s'est passée à une soirée. Et à ce soir-là, j'ai eu l'audace de lui demander « Mais enfin, pourquoi m'avez-vous fait lever un jour quand j'avais 12 ans et pourquoi était-il si important que vous fassiez ma connaissance ce soir-là » Et il m'a expliqué que c'est parce que ma famille était en somme la seule famille dont il a bien connu 3 générations et que c'était très utile pour son livre. Et il m'a dit, n'est-ce pas, je me suis servi de certains traits de votre mère. Et c'est exact, parce que les nattes blondes de Gilberte sont très exactement les nattes de ma mère quand elle était jeune fille. Il m'a dit, vous êtes la 3e génération et vous serez un personnage de mon livre. Et j'ai retrouvé avec beaucoup d'émotion la petite mademoiselle de Saint-Loup, qui n'apparaît qu'une seconde à la fin du temps retrouvé. Mais c'est évidemment cette idée-là qui est passée dans son œuvre.
Simone de Caillavet, future madame André Mauroy, racontait dans cette belle archive comment Proust est venu la voir, la réveiller en pleine nuit pour pouvoir lui parler et recueillir des informations afin de construire le personnage de mademoiselle de Saint-Loup. Et c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé cet été. Proust fait un usage particulier de la réalité pour son livre, pour son prochain livre. Et il procède un peu à la manière des peintres en fait. Il s'inspire de modèles pour les fondre dans la fiction.
Et elle a un ton de voix inimitable. C'est extraordinaire, cette archive. C'est en effet dans le salon de Madame Armand de Caillavet, la compagne et l'égérie d'Anatole France, vers 1890, que probablement Marcel Proust jeune a rencontré Anatole France pour la première fois. Et Anatole France, à cette époque, c'est la figure par excellence de l'écrivain national, de l'écrivain officiel, de l'écrivain aussi à succès. Et il a été, en 1896, le préfacier des Plaisirs et les Jours, le premier livre que Marcel Proust ait publié. Donc il y a un attachement de Proust à Anatole France, qu'on retrouve dans ce dialogue très émouvant avec la petite fille qui devient ensuite Madame André Mauroy. Mais c'est aussi grâce à cette rencontre qu'il a pu construire un des personnages principaux de son roman, le personnage du grand écrivain, le personnage de Bergotte.
Donc Bergotte qui est inspiré par Anatole France.
Mais pas seulement, c'est peut-être aussi un peu ceux qu'il avait, les grandes ombres qu'il avait pu croiser, ceux qu'il avait observés. Il y a sans doute un peu d'Alphonse Daudet, un peu de Paul Bourget, un peu de Maurice Barrès pour le grand écrivain de Venise. Et sans doute aussi, on va pas jouer à donner des clés, mais sans doute aussi des souvenirs d'Henri Bergson qui est un cousin un peu lointain de Proust. Hein, Proust était garçon d'honneur au mariage de Bergson. Donc il y a ici une manière d'inventer un personnage à partir d'éléments de réalité, et on l'entend très clairement dans cet entretien où elle se souvient.
Alors le narrateur, dans toute la recherche, il réfléchit à une manière particulière d'écrire, et il compare le peintre à l'écrivain. Il dit « le peintre original et l'écrivain original procèdent à la façon des oculistes ». Et en fait, il place l'importance du regard au centre de la démarche artistique, que ce soit l'écriture ou la peinture.
Oui, il aime bien les métaphores liées à des lentilles que peut-être Vermeer utilisait pour ses peintures. Il y a le télescope, il y a le microscope, et Proust de temps en temps est au télescope. Et de temps en temps au microscope. Et le lien avec la peinture, c'est évidemment par Bergotte qu'il passe, puisqu'il meurt devant une peinture, devant ce petit pan de mur jaune peint par Vermeer, en disant « c'est ainsi que j'aurais dû écrire ». Donc c'est vraiment parfaitement indissociable. Hein, ça veut dire que la littérature est une forme d'art, que comme la musique, comme la peinture, pour Proust, le fait d'écrire, c'est quelque chose qui le rapproche des grands créateurs.
Et ce regard particulier, il le met en œuvre à plusieurs reprises. Le narrateur, il observe les gens, mais il observe aussi les lieux et les intérieurs.
Ah oui, alors il est comme Balzac, c'est-à-dire qu'il va chez les gens et il traduit la manière dont ils ont décoré leur maison, leurs appartements. On peut lire à la recherche du temps perdu en étant sensible uniquement au décor. Et c'est très fascinant. Proust n'est pas du tout collectionneur. Il a rien chez lui. Il a son lit très rudimentaire, un portrait de son père. Bon, il y a vraiment, faut aller voir sa chambre telle qu'elle a été reconstituée au musée Carnavalet pour comprendre que, à la différence de son ami Robert de Montesquieu, par exemple, grand collectionneur, Proust ne l'intéresse pas du tout. Mais il observe le boudoir d'Odette de Crécy, rue La Pérouse, et ça c'est le style japonisant, hein, de la cocotte fin de siècle. Madame Verdurin qui s'entiche de moderne style. Robert de Saint-Loup qui vend tout le mobilier de sa famille, le mobilier des Guermantes, pour s'acheter un mobilier, là encore, moderne style et à la mode. La duchesse de Guermantes se moque par exemple de la princesse Diana. La princesse Diana, c'est une grande dame de la noblesse d'Empire, une descendante imaginaire d'une famille napoléonienne. Et là, tout est en style Empire chez les Diana. Bon, tout ça, on le voit dans le livre.
Alors, l'écrivain en herbe qui s'attarde beaucoup à décrire ce qu'il voit, ce qui se passe autour de lui. Mais ce narrateur, tout au long du livre, il hésite beaucoup à se mettre à l'écriture. Il doute de son talent. Il y a plusieurs pages bouleversantes à ce sujet dans lesquelles il est très sévère envers lui-même. Il parle notamment de néant de sa pensée. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une véritable mise en scène de l'écrivain dans la recherche, non seulement à travers le narrateur, mais surtout à travers Bergotte, donc l'écrivain. Pourquoi le fait-il mourir devant ce tableau de Vermeer ?
Parce que peut-être qu'il faut que le grand modèle à la Anatole France trépasse pour que puisse émerger le nouvel écrivain. Vous savez qu'on résume en trois mots à la recherche du temps perdu, je deviens écrivain. Et c'est vraiment ça que Proust réussit, et il faut peut-être cette immolation devant le chef-d'œuvre, hein, Bergotte terrassé, une indigestion de pommes de terre trop cuites, un chef-d'œuvre de Vermeer. Il meurt, et là, le livre à venir peut s'ouvrir.
Voir Vermeer et puis mourir, en fait.
En quelque sorte, et n'oubliez pas les pommes de terre, tout de suite.
Alors, à la fin du temps retrouvé, le narrateur prend enfin la décision d'écrire. André Dusselier nous lit un passage.
Enfin, cette idée du temps avait un dernier prix pour moi. Elle était un aiguillon. Elle me disait qu'il était temps de commencer. Si je voulais atteindre ce que j'avais quelquefois senti au cours de ma vie, dans de brefs éclairs du côté de Guermantes, dans mes promenades en voiture avec Madame de Villeparisis, et qui m'avait fait considérer la vie comme digne d'être vécue. Combien me le semblait-elle davantage, maintenant qu'elle me semblait pouvoir être éclaircie, elle qu'on vit dans les ténèbres, ramenée au vrai de ce qu'elle était, elle qu'on fausse sans cesse. En somme, réalisée dans un livre. Que celui qui pourrait écrire un tel livre serait heureux, pensais-je, quel labeur devant lui. Pour en donner une idée, c'est aux arts les plus élevés et les plus différents qu'il faudrait emprunter des comparaisons, car cet écrivain, qui d'ailleurs, pour chaque caractère, en ferait apparaître les faces opposées, pour montrer son volume, devrait préparer son livre minutieusement, avec de perpétuels regroupements de forces, comme une offensive, le supporter comme une fatigue, l'accepter comme une règle, le construire comme une église, le suivre comme un régime, le vaincre comme un obstacle, le conquérir comme une amitié, le suralimenter comme un enfant, le créer comme un monde sans laisser de côté ses mystères qui n'ont probablement leur explication que dans d'autres mondes et dont le pressentiment est ce qui nous émeut le plus dans la vie et dans l'art. Et dans ces grands livres-là, il y a des parties qui n'ont eu le temps que d'être esquissées et qui ne seront sans doute jamais finies à cause de l'ampleur même du plan de l'architecte. Combien de grandes cathédrales restent inachevées? On le nourrit, on fortifie ses parties faibles, on le préserve, mais ensuite, c'est lui qui grandit, qui désigne notre tombe, la protège contre les rumeurs et quelque temps contre l'oubli.
L'écrivain architecte, le roman cathédral, là, Proust utilise vraiment un vocabulaire de l'architecture, de la peinture, du dessin.
Oui, il dit construire comme une église, vous avez entendu. Hein, ça, c'est très... à suivre comme un régime aussi, mais moi, je retiendrais plutôt construire comme une église.
C'est un peu les 10 commandements de oui. L'écrivain parfait.
Et ça, c'est une métaphore très importante. Le roman cathédral, celui qui en avait donné l'exemple, c'est Victor Hugo avec Notre-Dame de Paris. Et Proust, d'une certaine manière, se rêve peut-être en écrivain national, comme l'a été Hugo, comme Proust. Proust l'est aujourd'hui. Proust devient le grand écrivain français. Et cette ambition-là passe aussi vers l'idée de faire une cathédrale, comme Claude Monet a peint sa série des cathédrales de Rouen, comme son ami Émile Mahal a écrit sur les cathédrales du XIIIe siècle, et puis comme son cher John Ruskin, dans la Bible d'Amiens, a décrit le portail magnifique et majestueux de la cathédrale d'Amiens. Donc cette idée de la cathédrale qui transforme l'écrivain en humble artisan, en bâtisseur, est crucial, c'est une des clés majeures, je crois, de la recherche du temps perdu.
Alors cette cathédrale, il en parle à la fin du temps retrouvé, mais il en parle aussi dans une lettre.
Ah oui, alors il y a une lettre incroyable, envoyée à quelqu'un qu'on connaît très peu, qui est le comte Jean de Gaigneron. Alors Jean de Gaigneron, c'est un peintre, artiste, collectionneur, c'est un homme du monde, et il a reçu, le 1er août 1919, une lettre de Marcel Proust qui répondait à une lettre d'admirateur que Gaigneron lui avait envoyée. Et voici ce que Proust lui dit. « Quand vous me parlez de cathédrale, je ne peux pas ne pas être ému d'une intuition qui vous permet de deviner ce que je n'ai jamais dit à personne et que j'écris ici pour la première fois, c'est que j'avais voulu donner à chaque partie de mon livre le titre « Porche 1, vitraux de l'abside », etc., pour répondre d'avance à la critique stupide qu'on me fait du manque de construction dans des livres où je vous montrerai que le seul mérite est dans la solidité des moindres parties. J'ai renoncé tout de suite à ces titres d'architecture parce que je les trouvais trop prétentieux, mais je suis touché que vous les retrouviez par une sorte de divination de l'intelligence. » Vous voyez, hein, Jean de Gaigneron, quand il a reçu ça, il a dû plier la lettre dans sa poche et se dire « Bon, qu'est-ce que je fais maintenant de ma vie ?»
C'est surtout que là, il écrit...
Proust lui révèle la clé de son livre.
Marcel Proust écrit surtout sa défense, en quelque sorte. Il répond à tous ceux qui lui disent « Mais c'est désorganisé, c'est un
désordre. » Parce qu'au début de la publication, quand les premiers volumes sont sortis, quand Du côté de chez Swann est sorti, on ne comprenait pas. Hein, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas comprendre. Pourquoi Swann confie-t-il Odette à son ami le baron de Charlus? Bon, voilà des questions. Le lecteur ne découvre la réponse que plusieurs volumes plus loin. Et cette architecture était déjà là et quelques lecteurs intuitifs l'avaient saisie.
Un été avec Proust. Adrien Goetz. Laura El Maki.
Selon Marcel Proust, l'écrivain devait à tout prix éviter de créer des œuvres intellectuelles. Il en parle beaucoup dans son essai Contre Sainte-Beuve. Il s'oppose à cette intelligence. Il trouve que c'est un danger. Comprenez-vous ce qu'il veut dire ?
Je préfère les intermittences du cœur à l'intelligence, certainement. Et ça, ça va avec le monument d'architecture trop construit. Le monument, selon John Ruskin, doit avoir une patine, doit avoir la beauté du temps sur lui. Il y a un effacement de la structure. Il faut que cette architecture très solide, on ne l'aperçoive pas au premier regard. Il y a évidemment une intelligence, et l'intelligence de Proust est une intelligence supérieure, mais la beauté doit s'imposer en premier. Et ça, c'est tout le prodige du chef-d'œuvre.
Alors, parlons de ce chef-d'œuvre justement. Comment comprendre cette phrase qu'on a entendue, qui nous était lue par André Dusselier ? On le nourrit, on fortifie ses parties faibles, qui part du livre, on le préserve, mais ensuite c'est lui qui grandit, qui désigne notre tombe. C'est lui qui grandit.
Il suffit de regarder les manuscrits de Marcel Proust pour le comprendre. C'est-à-dire qu'il a enrichi, il a fait grandir certaines parties, il a collé ses paperoles, il a retravaillé son texte exactement comme un artisan. Et il y a cet enrichissement de la matière du texte qui est évident dès qu'on regarde ces manuscrits. On va voir reparaître bientôt les manuscrits conservés dans la collection Bodmer. On pourra voir ça en reproduction à l'identique, et c'est évidemment l'œuvre d'un architecte, de quelqu'un qui nourrit sa pensée et qui a fait une œuvre vivante, une œuvre organique qui se développe d'elle-même comme une forêt.
Est-ce qu'il pensait à son lecteur en écrivant ce livre ? Est-ce qu'il l'avait toujours en tête ?
Je crois, parce qu'il en lisait des extraits à ses amis. Il lisait à haute voix, en riant, en s'excusant, en riant dans sa barbe. Donc oui, c'est un texte qui souffre très bien d'être lu à voix haute. D'ailleurs, c'est très difficile. On a entendu Dusselier magistral. Mais c'est un texte qui est fait pour des lecteurs, bien sûr. Et certainement pas pour lui-même.
Merci beaucoup Adrien Goetz. Merci. Et demain, nous parlerons donc pour notre dernière émission de la semaine et aussi de l'été de la lecture de cet art ultime proposé par Proust dans À la recherche du temps perdu. Passez une belle soirée sur France Inter. À demain.
Merci Laura Elmaki. On vous retrouve demain dès 20h pour la toute dernière émission de l'été en compagnie de l'historien d'art Adrien Goetz pour parler de la lecture chez Proust.